Le roi Philippe II d'Espagne compléta la panoplie des conseils pour tenir compte de la conjoncture politique. Le Conseil d'Italie fut créé de 1556 à 1559 et réformé après une longue visite en 1579. Extrait de l'ouvrage des historiens Bartolomé Benassar et Bernard Vincent, Le temps de l'Espagne.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À partir du milieu du XVIe siècle, la péninsule italienne est devenue une pièce importante de la puissance espagnole en Europe. Il est d'ailleurs significatif que le roi Philippe II crée un conseil d'Italie installé à Madrid entre 1556 et 1559. L'Espagne administre directement deux États italiens. Au sud, le royaume de Naples, au nord, le duché de Milan. Trois vice-rois représentent la couronne espagnole à Naples et à Palerme, et celui de Naples a également autorité sur la Sardaigne, et il y a ensuite un troisième gouverneur à Milan. Plusieurs États italiens sont sous l'influence de l'Espagne, qui dispose d'ambassadeurs à Rome, à Gênes, à Venise et à Florence. La Toscane, élevée au rang de grand-duché en 1569, est sous le pouvoir des Médicis, mais elle est sous le contrôle espagnol, grâce aux garnisons installées dans les présides de Toscane. La République de Gênes fournit à la couronne d'Espagne argent, grâce à la banque de Saint-Georges, mais également généraux et amiraux par le biais des familles Doria et Spinola. Les Estes de Parme, les Gonzagues de Mantoue, sont aussi sous l'influence des Habsbourg de Madrid. La papauté est également un enjeu pour la puissance espagnole. Le pape Pie IV, élu en 1559, s'oppose à une trop importante mainmise du très catholique roi d'Espagne. Mais celui-ci prend l'habitude de peser sur les conclaves en instituant le droit d'exclusive, c'est-à-dire son opposition à l'élection de tel ou tel cardinal, volonté annoncée par un cardinal fidèle du souverain espagnol. C'est en particulier le cas lors des conclaves de 1590 et de 1591. Les couronnes de France et du Saint-Empire romain-germanique font de même, respectivement en 1655 et 1691. Seuls deux États gardent une espèce d'autonomie en Italie. D'abord la sérénissime République de Venise. Sa flotte a participé à la victoire de Lépante du 7 octobre 1571 contre la flotte ottomane aux côtés des navires espagnols et pontificaux. Mais la lutte contre les Turcs épuise la République. Elle perd définitivement Chypre en 1573 et la Crète après de longs combats en 1669. Ensuite, le duché de Savoie, à cheval à l'est et à l'ouest des Alpes, largement de culture française, et dont le duc Emmanuel Philibert a dirigé les troupes de Philippe II d'Espagne lors de la bataille de Saint-Quentin contre les Français en 1557. La prépondérance espagnole connaît des moments néanmoins de contestation. En 1647, une trop forte pression fiscale provoque le soulèvement de Naples, dont la figure emblématique est le jeune pêcheur Tommaso Masaniello. D'autre part, les Français, en particulier sous le règne de Louis XIV, essayent de soutenir quelques mouvements de révolte, comme par exemple la révolte de Messine en 1674. La période espagnole est marquée aussi par des crises démographiques liées à des épidémies de peste qui frappent à intervalles réguliers. Celle de 1630-1631 ravage l'Italie du Nord. Celle de 1652-1656 frappe la Sardaigne, celle de 1656-59 touche le royaume de Naples et la République de Gênes. À Venise, par exemple, en 1630, 1167 personnes meurent au mois de septembre de la peste, mais c'est 14 466 morts en novembre. C'est encore plus de 4000 morts en juin 1631. Au total, on pense que Venise a perdu en 1630-31 environ 46 000 habitants à cause de cette épidémie de peste. Sur le plan économique, le XVIIe siècle est par ailleurs une période de stagnation, voire de crise. C'est vrai qu'il y a une concurrence de plus en plus forte des marchandises venues de Hollande, d'Angleterre, voire de France. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'en ce temps de l'Espagne, le catholicisme en Italie et le baroque vont pouvoir s'épanouir. La réforme catholique débute en Italie avant même le Concile de Trente. Des fondations d'ordre nouveau ont lieu, telles les Théatins en 1524, par Gaetano de Thienne et Gian Pietro Carafa, les Capucins en 1525 par Matteo di Bascio, ou les Jésuites en 1540 par l'Espagnol Ignace de Loyola. Des figures de prélats réformateurs apparaissent également à l'image de Gian Matteo Ghiberti, évêque de Vérone, de 1524 à 1643. D'autre part, il y a des confréries qui se multiplient dans toute la péninsule. À Rome, la confrérie de San Giuseppe dei Falegnami, c'est-à-dire Saint-Joseph des Charpentiers, est une des plus actives, avec son église en bordure du Forum romain. La piété mariale est aussi une des caractéristiques de la piété populaire italienne, comme le montre le nombre d'autels consacrés à la Vierge Marie dans le diocèse de Naples, 67 de 1598 à 1600, 103 de 1601 à 1666. Plusieurs centres mariaux vont d'ailleurs prendre de l'ampleur au XVIIe siècle. Le sanctuaire le plus important est celui de Nostra Signora di Lorette, situé près d'Ancône. Mais la période est aussi marquée par le triomphe de l'art baroque. Je n'ai guère le temps de m'apesantir sur ce que fut l'art baroque en Italie, mais vous le savez, pour ceux qui ont visité la péninsule, il est présent du nord au sud de celle-ci. Alors, quelques remarques néanmoins. Quelles sont les caractéristiques du baroque? D'abord, une volonté d'éblouir, de surprendre, comme c'est le cas lorsque le visiteur entre dans les églises du Jésus ou de Sant'Ignazio à Rome, ou déambule sur la Piazza del Duomo à Lecce, décorée par la cathédrale et son campanile, le Palazzo Vescovile et le Palazzo del Seminario. Puis, il y a aussi la caractéristique du mouvement, tant en sculpture que dans l'architecture. Le baroque n'est pas hiératique, mais cherche à donner un sentiment de mouvement, à l'image des statues de Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, parmi les plus grands artistes du baroque, qui illustre cette volonté du mouvement, au travers des statues de David, l'enlèvement de Proserpine, Apollon et Daphné, exposés aujourd'hui à la galerie Borghese. Enfin, l'utilisation du clair-obscur. Celui-ci est au cœur de l'art pictural de Michelangelo Merizzi, dit le Caravage, du nom de son village natal en Lombardie. Ainsi, dans ses trois tableaux consacrés à Saint Matthieu, dans la chapelle Contarini de l'église Saint-Louis des Français à Rome. Et puis ne pas oublier que l'art baroque, c'est aussi l'art du paraître. En la matière, la musique joue un rôle tout particulier. Le grand spectacle qu'est l'opéra naît au cours du XVIIe siècle italien. Les œuvres considérées comme étant les premiers opéras sont Eurydice de Jacopo Peri, joué devant le roi Henri IV de France et son épouse Marie de Médicis, ou l'Orfeo de Claudio Monteverdi, créé à la cour de Mantoue en 1607. Certaines œuvres atteignent la démesure. C'est le cas de l'opéra de Giacomo Carissimi, Il Pomodoro, qui dure 8 heures. Le succès musical de l'opéra entraîne la construction de nombreux théâtres dans toute l'Italie. En 1624, le pape Urbain VIII fonde dans le Palazzo Barberini une salle afin d'accueillir des spectacles d'opéra. Par la suite, les inaugurations se succèdent au XVIIe et XVIIIe siècle, le San Carlo de Naples en 1737, le Teatro Bibbiena de Mantoue en 1769, la Scala de Milan en 1778, la Fenice de Venise en 1792. Cette prépondérance espagnole connaît une fin au début du XVIIIe siècle avec la guerre de succession d'Espagne. Celle-ci, qui voit une véritable confrontation européenne, va faire que désormais, en Italie, c'est la dynastie des Habsbourg d'Autriche qui va prendre le relais de ce que fut le temps de l'Espagne.